Bonjour, ici Chantal Lavoie. Voici votre émission Aime l'été, de retour entre midi et 13h en ce mardi 16 juillet. Dans nos sujets de l'été, nous vous offrons de belles propositions de sorties, d'escapades, d'aventures même. Mais on s'ouvre aussi à la diversité. Nous vous proposons des exemples de détermination. On souligne de même les difficultés et les exploits de gens en situation de handicap. Bref, une variété de préoccupations tout au long de la saison estivale et on rencontre des gens inspirants. Au cours de l'heure qui va suivre, joignez-vous à nous à Aime l'été. Et au menu aujourd'hui, on va recevoir Maxime Drolet, tétraplégique, qui à force de volonté est devenu un athlète accompli. En plus de jouer du rugby en fauteuil roulant, il a relevé bien des défis tout en ayant des projets plein la tête. Également à l'émission, un festival qui est devenu un incontournable de l'été dans la région de Charlevoix, le Festif de Baie-Saint-Paul, s'ouvre cette semaine pour une 15e édition. On fera le tour de la programmation avec son directeur général et directeur artistique, Clément Turgeon. Notre collaboratrice à la recherche et chroniqueuse Clarence Robitaille Meloche s'intéresse à la communauté LGBTQ+. Il sera question aujourd'hui de la sélection du concours littéraire Queer Academy, une activité phare de fierté littéraire. Mais on va commencer l'émission avec Virginie Gargano, qui étudie les retombées physiques, psychologiques et sociales de l'activité plein air afin d'intégrer le sport de plein air dans un cadre d'intervention psychosociale. Elle va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Bienvenue à Aime l'été! Oui, bienvenue à Aime l'été avec Nathalie Barrette à mes côtés. Bien sûr, bonjour Nathalie.
Bonjour. Écoute, je voulais juste te rappeler. Ouais. Hier, on a parlé d'agrotourisme avec la Terre des Bisons. C'était super intéressant. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui vont être en vacances d'ici peu. Alors, j'incite ces gens-là à aller visiter dans leur région. Puis, tu sais, si les gens vivent à Montréal, qu'ils aillent en région, pas loin, Terrebonne, Mascouche, Rive-Nord, Rive-Sud. Il y a des fermes. Encourager les agriculteurs, les éleveurs qui se fendent en quatre pour nous produire, nous offrir des produits de qualité. Alors, j'avais juste envie de mentionner ça pour commencer. Encourager les gens d'ici.
Découvrir des produits locaux et des gens qui nous offrent de beaux projets aussi agro-touristiques.
Beaux produits.
Et puis moi, je suis passée au marché Jean Talon. Oui. Et puis, écoute, vraiment, l'odeur ce matin, c'était extraordinaire. Enfin, j'ai pas pu finalement, j'ai pas pu acheter ce que je voulais parce qu'il y avait trop de monde. Mais enfin, mais j'ai juste au moins profité de l'odeur du marché. C'était fantastique.
Faut que tu dises, t'as failli nous acheter
une guédille au homard. Oui, mais ça sera peut-être pour une prochaine journée. Ouais. Cela dit, c'est un lien privilégié aussi avec la nature, dans une certaine mesure, quand on va au marché, parce que c'est pour les gens qui ne peuvent pas sortir de Montréal ou qui sont à mobilité réduite, juste aller au marché, c'est un lien avec la nature. Et justement, notre prochaine invitée, elle, s'est intéressée au lien avec la nature, mais aussi avec les sports de plein air. Virginie Gargano, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler des retombées de certaines activités de plein air, justement pour notamment, en fait, les retombées psychologiques, physiologiques, également sociales, psychosociales au niveau du sport de plein air. Et puis en même temps, ça peut aider des organismes aussi à faire des interventions sociales auprès de certaines personnes, justement par le biais du plein air. Alors, oui, c'est ça. Donc, vous êtes une chercheuse. Bien sûr. Et puis, vous êtes professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, mais vous avez aussi un doctorat en service social. Alors, ça, c'est pour vos présentations. Maintenant, vous êtes vous-même une grande passionnée de sport de plein air.
Oui, effectivement. En fait, une des particularités de mon parcours, là, c'est le fait que, de façon parallèle à mes travaux de recherche, je continue à pratiquer avec différents groupes, donc j'amène aussi des expéditions de plein air avec différents types de groupes qui ont des besoins tout aussi différents les uns des autres, mais qui ont tous pour but en fait de démocratiser le plein air ou de le rendre accessible en fonction des besoins des personnes.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez entrepris une série d'études, mais vous vous êtes, en fait, intéressé à trois activités en particulier.
Oui, en fait, ben cette étude-là, elle porte sur des pratiques qui sont dites immersives. Je me suis intéressée davantage à l'escalade de rochers, au canot d'eau vive et à la randonnée pédestre. Pour savoir, en fait, de façon un peu plus particulière, là, en quoi ces activités-là ont des retombées sur différentes dimensions de la santé, pour ultimement les incorporer à des démarches d'intervention. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des pratiques immersives, il y a quand même des répercussions ou des retombées qui sont associées aux pratiques qui sont dites un peu plus passives. Donc, là, je vous écoutais parler tantôt là, des expositions, en fait, quand on va au marché ou qu'on a accès à des jardins.
C'est ça.
Bien, pour les personnes pour qui c'est plus difficile d'avoir accès au plein air, il y a quand même des retombées aussi à s'exposer à la nature d'une façon un peu plus passive. Donc, en jardinant, en ayant accès à des plantes, en ayant de la lumière naturelle dans la maison. Donc, oui, mon projet de recherche porte sur les activités là, que j'ai nommées, mais il y a quand même aussi des répercussions à être exposé à la nature. Donc, je trouvais ça important de le souligner, en fait.
D'ailleurs, vous offrez vous-même des formations auprès des médecins pour les sensibiliser davantage à, finalement, cette exposition à la nature. Et puis même en milieu hospitalier, ça peut être juste de placer les lits face à une fenêtre ou enfin à proximité d'une fenêtre pour que les gens aient accès à l'extérieur, peut-être à des arbres. C'est vraiment important.
Oui, effectivement, mais c'est ça, c'est que souvent quand on parle de plein air, on pense que on voit le montagnard là en train de d'accéder à un sommet. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est important pour la population de savoir que au-delà de ces expériences-là, qui sont très immersives et qui sont très onéreuses aussi, qui requièrent aussi un temps assez fou, en fait, quand on pense à nos quotidiens. À notre quotidien, c'est de se dire qu'au-delà de ces expériences-là, il y a des expériences un peu plus passives qui peuvent être incorporées dans notre quotidien en fonction de la vie qu'on a. Donc là, vous prenez l'exemple effectivement là, du milieu hospitalier dans lequel juste de changer l'angle en fait des lits peut donner accès à des lieux naturels ou en fait à la lumière naturelle. Et à des paysages qui sont peut-être plus intéressants qu'un mur et qui ont des impacts sur la santé. Donc, moi, au-delà des activités qui sont plus immersives, je pense que c'est important que les gens sachent que, justement, d'avoir accès à de la lumière naturelle, de pouvoir faire des expériences de jardinage, d'aller prendre des marches en milieu naturel ou près des milieux urbains, ou même de se centrer sur les aspects qui sont naturels autour de nous dans des milieux urbains, ça peut aussi avoir un impact. Évidemment, quand on incorpore de l'activité physique, puis une pratique qui est plus immersive dans un milieu comme l'escalade de rochers, comme le canot d'eau vive, comme la randonnée pédestre qui se déroule en milieu naturel, bien là, on vient potentialiser l'apport. Mais ceci étant dit, quand on n'a pas accès à ça, de prendre une marche puis de se centrer sur les éléments naturels qui nous entourent, d'ores et déjà, on a des effets.
Effectivement.
Quand vous parlez d'impact et d'effet, on parle majoritairement de quel effet? Effectivement, effet positif, là, mais on parle de quoi?
On va parler nécessairement d'effets qui sont physiologiques, donc au niveau de la diminution des taux de cortisol dans le sang,
okay.
Donc, qui sont des indicateurs de stress. On va parler de la variabilité du rythme cardiaque ou en fait de la fréquence cardiaque qui diminue, de la réduction du stress. Fait que là, on est plus dans des données physiologiques. Mais au niveau psychologique, on va parler du calme, de l'augmentation de l'humeur positive, pardon, il y en a tellement. Là,
oui, mais je sais, finalement. mais il y a des impacts aussi au niveau cognitif, forcément.
Oui, effectivement. Donc, au niveau psychologique, on va parler de l'augmentation de l'estime de soi, de la confiance en soi. Après ça, on va parler de retombées au plan social qui sont pas nécessairement liées au fait d'être en plein air, mais au fait d'être en relation avec d'autres personnes.
Exact.
De dire, quand je vais en milieu naturel, finalement, si j'utilise toujours la même piste, je fais toujours le même trajet, je vais être susceptible de rencontrer des personnes que je vais recroiser puis qui vont me permettre, en fait, d'avoir une retombée au plan social. Et évidemment, on va parler là, sens, en fait, de l'augmentation du bien-être général, de la satisfaction à la vie. Donc, il y a une panoplie d'effets qui sont répertoriés en fonction des activités ou des pratiques qui sont réalisées par les personnes.
C'est ça. Et puis, au niveau psychologique, ben, tu sais, tous les symptômes anxieux, dépressifs, tout ça, bon, on en a parlé. Mais évidemment, vous avez aussi, vous faites partie d'une fondation qui aussi accompagne, ben, c'est-à-dire que fait un peu le même genre de travail, bon, qui offre des expéditions d'aventures thérapeutiques aux jeunes, par exemple, atteints de cancer, ça peut être ça. Il y a la Fondation sur la pointe des pieds dont vous faites partie.
Oui, effectivement. Donc, à la Fondation sur la pointe des pieds, on réalise des expéditions avec les jeunes et les adultes aussi qui sont atteints de cancer ou qui sont en rémission. Et ces expéditions-là ont pour but, en fait, de regagner la confiance en soi, de vivre une expérience qui est ancrée dans le bien-être. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette population-là, ces personnes-là, bien, souvent, ils ont un parcours, une trajectoire de vie qui les amène en milieu hospitalier, à passer beaucoup de temps en milieu hospitalier, puis ce qui fait qu'il y a une certaine fracture, en fait, au niveau social. Donc, si, par exemple, j'ai un adolescent, finalement, bien, j'ai des traitements qui font en sorte que je manque d'école pendant plusieurs mois, bien, on sait que la socialisation, le sentiment d'appartenance au père, c'est super important à cet âge-là. Donc, à ce moment-là, les expéditions avec la Fondation sur la pointe des pieds permettent en fait de reconnecter avec cet aspect-là de l'adolescence. Donc, pour moi, ça, c'est un super bon exemple là, dont on parle ici de quel point le plein air peut devenir un médiateur au plan social. Donc, c'est pas tant nécessairement de regarder la nature qui a un effet, mais plutôt d'être dans un contexte qui est inclusif, qui est informel, avec des personnes qui vivent une situation semblable à la mienne, qui va faire en sorte qu'à travers cette expérience-là de vie commun, à la fois du cancer, mais aussi de faire une expédition de canot, bien là, je vais avoir des effets sur le sentiment de confiance en soi, sur le sentiment d'appartenance, sur l'estime, etc.
C'est ça. Et puis, il y a aussi la Fondation Face au vent, l'organisme Face au vent. Ça, c'est pour une clientèle qui a un suivi en santé mentale. Alors, c'est le même principe, finalement. C'est vraiment pour à la fois réunir les gens autour d'une activité qui va peut-être changer bien des choses dans leur parcours et puis dans les traitements ou enfin dans le type d'intervention que l'on va faire. Est-ce que vous trouvez, vous, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoute par rapport à ça quand vous rencontrez, par exemple, des médecins? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont vraiment très ouverts?
Oui, ben oui, c'est sûr que quand moi je donne des formations, d'ores et déjà, les gens qui se présentent, c'est des gens qui sont ouverts à ces pratiques-là. Moi, ce que je pense, c'est où on en est rendu aujourd'hui, c'est de dire voici les forces de ce que le plein air peut générer chez les personnes au plan physiologique, psychologique, social, même spirituel, mais voici où sont les limites. OK? Puis ça, je pense que c'est super important, c'est de dire, ben par exemple, c'est certain que, tu sais, si j'ai accès à de la lumière naturelle chez moi, j'ai des plantes dans mon environnement, j'ai un jardin, c'est bien, c'est très bien, ça va diminuer les... probablement les traits anxieux ou les symptômes de dépression, mais encore, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Exact.
Donc, il y a des forces, mais ce qui est important au niveau où on en est actuellement, au niveau de la science, puis je pense au niveau des pratiques, c'est de délimiter les forces et les limites du plein air sur les dimensions de la santé. C'est pour ça, pour moi, que c'est important aussi de parler des expositions qui sont un peu plus passives ou quasi-passives, comme je vous disais, là, s'asseoir dans un parc, prendre une marche, se centrer sur ce qui est naturel, parce que, oui, ça a un impact, mais après ça, de façon plus immersive, quand j'augmente l'activité physique, ben là, c'est sûr que je vais encore plus augmenter ou diminuer, pardon, les symptômes anxieux et les symptômes associés à la dépression, parce que là, je viens potentialiser l'effet de la nature en ajoutant l'activité physique.
Exemple, c'est sûr, si on fait de l'escalade de rochers, là, pour en avoir fait, c'est sûr qu'on est dans le moment présent. Enfin, il y a plein de... Évidemment, c'est sûr que, bon, ça a un impact différent, évidemment, sur les gens qui pratiquent ce genre d'activité-là. Alors, ça peut être... Vous avez fait beaucoup d'études sur toutes sortes de sujets, mais en fait, ça peut être, par exemple, la nature en soutien au rétablissement de personnes, de jeunes adultes ayant vécu un premier épisode psychotique. Ça peut être... Même vous avez fait aussi, on parle d'activités là, de plein air et sportives, des activités d'aventure comme le surf aussi. Vous êtes même penché sur la question. Intéressant.
Oui, bien, ce que je pense en fait, c'est que aujourd'hui, on est soumis à un potentiel de stress vraiment grand dans notre quotidien. Puis je pense que en réalisant des activités d'aventure qui nous demandent de se mobiliser cognitivement pour faire la tâche, pour exécuter la tâche. Donc là, on parle d'escalade ou on parle de surf. Ça fait en sorte qu'étant donné le niveau de défi qui est requis par la pratique de l'activité, donc gravir une voie en escalade ou être capable d'attraper la vague au bon moment en surf, ça fait en sorte qu'on se concentre sur autre chose que nos tracas quotidiens, le niveau de stress associé au travail, le niveau de stress associé aux tâches quotidiennes. Et ça, naturellement, ce que ça amène, c'est une diminution du stress et une augmentation de la centration par le fait même sur le moment présent. Donc, c'est comme si, pour moi, les activités de nature et d'aventure viennent naturellement diminuer le niveau de stress et augmenter le bien-être général.
Exact. Ça a un impact vraiment positif sur la régulation des émotions, notamment. Mais alors, c'est sûr que là, vous avez travaillé bien fort dans toutes sortes... effectivement, on parle de toutes sortes d'activités, mais évidemment, vous avez choisi, là, vous avez eu votre subvention, justement, du Centre du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour, justement, étudier les retombées de trois activités spécifiques. On a parlé de l'escalade, le canot et la randonnée pédestre. Là, vous êtes... En fait, tout ça parce que ces trois activités-là, il faut le dire, hein, les gens ici au Québec pratiquent ces activités-là en grand nombre, hein, parce qu'on a beaucoup de sites d'escalade. Ici, on a aussi des rivières en quantité. Oui, on en a beaucoup. Alors, on fait du canot, bien sûr, et on a beaucoup de réseaux de sentiers pédestres. Alors, et puis, en même temps, je veux dire, vous voulez aussi... Là, vous êtes à l'étape de l'écriture, je pense. Vous avez colligé les données.
Oui, oui, c'est à l'étape de la publication. C'est un très bon résumé là, que vous offrez là. En fait, c'est qu'on a, oui, on a accès. Je crois que c'est super important de savoir qu'on a accès à un potentiel incroyable de plein air de proximité au Québec. Évidemment, les grands centres urbains, il faut faire un petit peu plus de route. Mais quand même, comparativement à certains autres milieux, on est quand même assez choyé, effectivement. Tout à fait. Et je crois que si on sait reconnaître le potentiel de ces activités-là, puis on est plus susceptible de les utiliser ou de les mobiliser comme personne, ben en fait, on a une incidence directe sur notre propre santé globale.
Exactement. Ouais.
Et je crois, par contre, puis la raison pour laquelle j'ai investigué trois activités différentes, c'est que je crois qu'on, de façon naturelle, je ne dis pas d'explication là à ça, mais on a une résonance pour certaines activités plutôt que d'autres. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je suis allée investiguer, les personnes qui aiment le canot et le kayak d'eau vive ou de rivière, si on veut, c'est quoi la différence, en fait, pour leur intérêt pour cette activité-là, puis qu'est-ce que ça génère versus les personnes qui s'intéressent davantage à l'escalade ou la randonnée.
C'est ça.
Puis moi, j'ai envie de dire, c'est juste de faire une activité ou de pratiquer une activité qui nous intéresse, puis pour laquelle c'est naturel pour nous. Tu sais, quand on force, puis on se sent pas dans notre élément, bien, c'est d'investiguer la panoplie d'activités qu'on peut faire.
Exactement.
Parce que des fois, je trouve qu'au Québec, on va parler de randonnée pédestre, après on va parler de course en sentier, mais au-delà de ça, il y a une panoplie d'activités qui peuvent être réalisées, en fonction des milieux qu'on a, les rivières,
exact.
Les lacs,
ouais.
Les parois d'escalade.
En tout cas, Virginie Gargano, ça a été passionnant de vous recevoir. Là, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Mais évidemment, vous allez partager aussi votre étude autant que se peut là, avec la population. Alors, on aura tous les tenants et aboutissants de cette recherche-là. Merveilleux. Écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Chantal, oui. Je voulais te mentionner les gens qui... En fait, les randonnées au Québec les plus populaires qui conviennent aux fauteuils roulants, il y a un site Internet. Alors, All Trails, je m'excuse, c'est en anglais, All Trail, alltrails.com. C'est pour les randonnées, mais pour les fauteuils roulants. Donc, avec toutes les indications routières qui ont été préparées à la main, des avis détaillés, des photos des randonneurs. Alors, on invite les gens à aller voir alltrails.com.
Oui, parfait. Puis on entendait un petit téléphone là, dans les parages. Bon, alors, on s'arrête dans une pause
réveiller.
Et puis on a notre prochain invité. On l'accueille dans un instant. Et Nathalie, alors intéressant, on y reviendra en concernant cette oui, adresse, oui. Site finalement.
Oui.
Alors pour les randonnées pédestres, pour les gens à mobilité réduite. Mm. Mais on va parler maintenant avec notre collaboratrice à la recherche et chroniqueuse Clarence Robitaille-Meloche. Bonjour Clarence.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de Queer Academy, qui est une activité phare de fierté littéraire.
Oui, tout à fait. Donc, Queer Academy, c'est la deuxième édition cette année et j'ai assisté hier soir aux sélections parce que l'événement se divise en deux parties. Mm-hmm. D'abord, les sélections qui ont eu lieu donc le 15 juillet, hier, et la finale qui aura lieu le 1er août. Normalement, la fierté à Montréal est au début août. Pourquoi ils ont fait les sélections de Queer Academy le 15 juillet? C'est parce que le principe de l'événement, c'est de faire une compétition littéraire avec des mentors. Donc, ça ressemble un peu à La Voix.
Donc, oui, en quelque sorte, oui.
C'est vraiment...
C'est comme une compétition, un concours.
Voilà. Mm-hmm. Donc, et il y a des semaines de mentorat entre les mentors et les mentorés pour les préparer à la finale. Donc, ils ont commencé un peu avant la fierté.
D'accord. Alors, c'est une espèce de... Ben, on a évidemment sur une autre station, une autre chaîne, le combat des livres. C'est un peu ça, finalement. Alors, il y a des gens qui vont défendre ces œuvres-là.
Non, pas exactement.
Pas tout à fait ça. Okay.
C'est pas exactement ça. Donc, Queer Academy, ce qui se passe, c'est qu'il y a quatre mentors. Donc, cette année, c'était Sylvie Payette,
okay.
Jonathan Bécotte, Chris Bergeron et Leila Sofiane. Donc, quatre auteurs qui sont liés à la communauté LGBTQ+. Ils prennent chacun deux mentorés, donc des gens qui ont soumis des textes d'environ 200 mots de façon anonyme, mm-hmm. et qui ont été présélectionnés. Au total, ils avaient reçu 24 textes. Ils en ont présélectionné 12. Et donc, au final, il y en a 8 qui sont sélectionnés pour la compétition. Et ils vont les mentorer, donc ils vont les accompagner dans une écriture de texte. Et il va y avoir une finale le 1er août où on va lire les nouveaux textes, présenter les auteurs. Et le gagnant remporte un contrat d'édition avec la maison d'édition TNT.
Ah, wow. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ben merci d'avoir précisé tout ça. Et puis, alors, ces textes-là, est-ce que ces lectures vont être faites par des comédiens, ça se peut-tu?
Alors, à la sélection, effectivement, il y avait une comédienne qui était présente et qui lisait les textes à voix haute. Donc, les mentors n'avaient pas le texte sous les yeux, ce qui rend la tâche difficile parce que souvent, la lecture d'un texte permet d'en saisir un peu mieux l'essence ou la simple manière dont la typographie est faite, comment le texte est organisé, peut donner un indicatif sur comment apprécier le texte. Là, ils n'avaient pas ça. C'était uniquement à l'oral.
Ah, d'accord.
Y avait-il des sujets imposés ou c'était...
La majorité des thématiques, ouais, étaient autour de la communauté LGBTQ+, ah, okay, évidemment. Donc, certains textes abordaient l'identité sexuelle, mm-hmm, d'autres abordaient l'homoparentalité, certains autres abordaient plutôt le sentiment de solitude ou la remise en question avec soi-même. C'était des textes tous assez imagés, mais comme c'est un concours qui est organisé par Fierté Montréal... ou par Fierté littéraire, qui, mm-hmm, participe à Fierté Montréal, mm-hmm, que ça tourne autour de la communauté de LGBTQ+, c'était une évidence.
Bien sûr. Alors, justement, ben, cette finale, finalement, va aussi coïncider avec le cabaret littéraire, hein, qui va ouvrir officiellement le Festival de Fierté littéraire, donc événement dans le cadre aussi de Fierté Montréal. Et puis ça, ben, je sais qu'on a, le Denis Martin Chabot, qui en est le directeur artistique, hein, que vous retrouvez ici même à Canal M, et oui, qui va remplacer d'ailleurs Hélène Denis au cours des prochaines semaines. Alors ça, il va vous en parler, ça c'est sûr.
Comment as-tu aimé ta soirée hier?
J'ai trouvé que les textes qui étaient présentés étaient tous très riches, mm-hmm, à la fois différents, entre eux, parce, mm-hmm, qu'il n'y a pas deux textes qui se ressemblaient là-dedans. Et j'ai trouvé ça aussi très, très stimulant, mais pas surstimulant. Ce que je trouve agréable dans les événements de la fierté littéraire, c'est que justement, ça permet de célébrer la fierté dans une ambiance qui est beaucoup plus calme, mm-hmm, beaucoup plus posée, dans laquelle on peut fermer les yeux et se laisser aller au son de la voix du comédien ou de la comédienne qui lit les textes. Et c'est quelque chose que je trouve très agréable étant quelqu'un qui est facilement surstimulé. Mm-hmm. Donc, c'est une alternative intéressante. La seule chose qui serait susceptible, peut-être, si vous me permettez le petit trait d'humour, de surstimuler quelqu'un à la Comédie de Montréal, c'est la couleur des murs.
Ils oui, sont quelle que... couleur?
Rouge et jaune, un peu comme logo de McDonald's.
Ah. D'accord. Alors, c'est au théâtre La Comédie de Montréal qui est situé sur le boulevard de Maisonneuve-Est. Au 11-13, voilà. Alors, il y a une activité que toi, que tu aimes bien aussi dans le cadre du festival Fierté littéraire, hein, je pense, c'est Transpoésie?
Non, c'est
pas celui-là.
Mon préféré à moi, ça s'appelle le combat homo. Donc,
ah, d'accord, c'est vrai.
Le combat homo, donc O-A-U-X, pardon, mot, M-O-T-S, mm-hmm. qui est un jeu de mots. Ça ressemble un peu au combat des livres. Donc, c'est quatre panélistes qui défendent chacun un livre qui a été écrit par un auteur queer qui aborde des thématiques queer comme étant le meilleur. Et à chaque tour de parole, le public vote pour celui qu'on élimine. Et à la fin, le public vote pour son préféré et c'est celui-là qui gagne.
D'accord. Donc là, il y a vraiment déjà une liste de ces œuvres-là
qui est
sélectionnée.
La liste est déjà sélectionnée, contrairement à la sélection de Queer Academy où ils ne donnent pas trop de détails à l'avance pour garder le suspense. Là, pour le combat des livres, c'est annoncé. On a les panélistes, on a les livres qui vont être défendus. Personnellement, je préfère ne pas le savoir à l'avance parce que j'aime arriver là et me baser uniquement sur les arguments des panélistes pour choisir mon préféré.
Je veux juste revenir sur Queer Academy, la finale. Est-ce que les gens peuvent y assister?
Oui, bien sûr. Okay. Les événements de Fierté littéraire sont tous ouverts. Ils sont tous gratuits, sauf le tout dernier. Mm-hmm. qui va être payant. Et ils sont également diffusés sur YouTube. Donc, sur la chaîne littéraire, vous tapez Fierté littéraire sur YouTube et vous pouvez facilement trouver leur chaîne et avoir accès à tous les événements.
Chantal, je trouve ça important de mentionner parce qu'elle nous parle de beaucoup de littérature et je tiens à préciser quand même que tu as fait tes études tu as un bac en...
En communication?
Non.
Je suis présentement au bac en communication journalisme. Mais... Avant, j'ai étudié en études littéraires à l'UQAM aussi, donc j'ai un bac en études littéraires.
Études littéraires, parfait. Quand même.
Eh bien, c'est ça. Et on suivra la semaine prochaine Denis Martin Chabot, directeur artistique de Fierté littéraire. Il va continuer à nous en parler, bien sûr. On s'arrête le temps d'une pause. Oui. On revient après pour la deuxième moitié d'heure. À Aime l'été.
Vous écoutez Aime l'été.
Eh oui, deuxième moitié d'heure de Aime l'été, toujours avec Nathalie Barrette, qui est toujours avec moi en studio. Et puis là, ben, on a la chance aussi de garder Clarence Robitaille-Meloche avec nous aussi. Alors, on accueille notre prochaine invitée, qui est Clément Turgeon, qui est directeur artistique et fondateur, oui, du Festif de Baie-Saint-Paul. Bonjour.
Bonjour.
Ah oui, dire que ça a commencé avec, bien évidemment, dans une soirée bien arrosée. On s'était parlé l'an dernier, en fait, puis vous nous aviez raconté un petit peu la genèse de ce beau projet, et puis soirée arrosée avec des amis, et puis vous êtes toujours là pour votre 15e anniversaire.
Oui, exactement, puis on est très, très, très reconnaissant de pouvoir encore... poursuivre ce beau rêve-là, finalement.
Mais oui, c'est ça. Puis dire que ben, vous étiez jeune, vous l'êtes encore, mais enfin, dire que finalement, vous vous êtes créé une job pour pas mal d'années à venir encore. Alors, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment... C'est à la fois un beau projet pour vous, mais pour toute la communauté et puis tous les Québécois qui viennent vous visiter année après année, parce que c'est un des festivals phares de l'été, il faut le dire. Là. Puis la région de Charlevoix, endroit très couru, évidemment, non seulement pour les Québécois, les touristes et tout, mais enfin, alors c'est sûr que c'est un festival incontournable.
Ben oui, puis année après année, on finit par le réaliser, là, l'ampleur de l'événement. Ouais. Je pense qu'on se promène un peu partout, puis les gens nous en parlent.
Puis vous prenez de l'expansion à chaque fois aussi, hein, ça grossit tout le temps. Je pense que l'an passé, vous aviez quoi, 125 concerts, spectacles?
Oui,
ben, vous en avez davantage?
On en a 3 de plus. Il y en a encore plus, mais ben oui, puis tu sais, on essaie toujours de trouver l'équilibre, parce qu'on pourrait se développer davantage, mais en même temps, ce qui est spécifique au festival, ben c'est le lien avec la communauté. On se déploie sur les balcons, les cours arrière, un peu partout. Donc, faut garder cet esprit-là, puis si on grossit trop, ben on va le perdre. Donc c'est un bon défi, en fait, là. Des fois, c'est plus dur de grossir que de... C'est plus dur de rapetisser que de grossir.
Oui, vous avez raison, parce qu'avec l'engouement, tout ça, ben on se laisse emporter. Puis les artistes aussi qui souhaitent y être, forcément, parce que c'est un festival qui a une grande visibilité. Mais là, cette année aussi, il y a quand même certaines nouveautés, je pense, notamment... ça commence cette semaine-là, officiellement le 18 juillet, ouais, en soirée. Mais en fait, vous avez aussi fait en sorte que la rue Saint-Jean-Baptiste soit piétonne maintenant.
Oui, exactement. En fait, dans l'année dernière, on a réalisé qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux entre la circulation automobile et les festivaliers. Donc, ça devenait un petit peu moins sécuritaire. On a eu des rencontres avec, entre autres, la Sûreté du Québec, le ministère des Transports. On a conclu que la meilleure chose, c'était de rendre la rue piétonne, ce qui était déjà le cas, mais en partie. Donc là, vraiment, on barre à partir du début de la case de jardin, puis on fait une bonne partie de la rue. Ça va être plus sécuritaire. Puis pour nous, ben, tu sais, ça ajoute une expérience où si les gens aiment cette rue-là, puis là, ils vont pouvoir profiter
de très belle
de
rue,
piétonne.
Forcément. Alors, puis en plus, vous avez quand même fait des petites modifications au niveau de l'espace. D'abord, l'espace VIP n'existe plus, de sorte que sur la place des jardins, vous pourrez dorénavant accueillir 300 personnes de plus. C'est pas rien?
Oui, on est toujours en mode, tu sais, on repense à chaque année nos sites, puis on voyait que l'intérêt était beaucoup plus vers des billets, finalement, d'avoir plus de place que d'avoir du VIP. Donc, nous autres, on a priorisé ça. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de monde. Puis, on a fait plein de petites modifications sur nos sites en général. On a aussi des nouveautés, des choses surprises qui vont se dérouler dans des cours qu'on n'a jamais visitées, la série Urbania. Ça nous transporte à la Bétonnière Perron, au Mousse Café, dans la caserne de pompiers.
Des lieux inusités aussi, c'est ça. Vous investissez dans des lieux différents.
Exactement. Puis nos préférés, c'est toujours les cours. Fait qu'on a la shop à Ghislain, la cour à Joanne, la cour à Michel. Donc, on donne le nom des citoyens parce qu'ils permettent de nous installer là. Donc, c'est important de le souligner.
Exactement. Et puis bon, vous avez quand même 50% des spectacles gratuits, là.
Oui, exactement. Tout près de 50%. Puis ça, c'est toujours un défi à chaque année là, de maintenir ce niveau de gratuité-là dans notre programmation. Mais c'est important parce qu'on veut que ça soit accessible pour tout le monde. On a aussi beaucoup d'artistes découvertes, donc les gens peuvent découvrir sans prendre le risque finalement d'acheter des billets à l'avance. Donc ça ajoute beaucoup à la spontanéité de l'événement.
J'aime beaucoup votre zone de réconfort avec la présence d'organismes communautaires. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, ben ça, c'est une zone qu'on a inaugurée il y a quelques années déjà. Donc, on a des organismes de la région qui sont là pour informer, prévenir, encadrer, accompagner les festivaliers. On veut essayer que ça soit un contexte le plus sécuritaire possible, inclusif et tout ça. Donc, ces organismes-là, on a entre autres SAPSA pour la détection des drogues, finalement. Donc, vous pouvez... on ferme pas les yeux, là, puis les festivals le font de moins en moins. On sait qu'il y a de la consommation, donc SAPSA offre le service de détection. On s'assure donc qu'il n'y a pas d'exemple de présence de GHB, des choses comme ça. Ça évite beaucoup, beaucoup de tragédies. Tout ça, on a des organismes aussi sur le terrain qui vont se promener un peu comme des travailleurs de rue. Puis s'il y a des enjeux où si quelqu'un se sent inconfortable, il peut repérer ces personnes-là qui ont des dossards blancs. Donc, c'est tout un encadrement qu'on fait, puis on veut s'assurer d'éviter que des gens aient des expériences malheureuses.
Effectivement. Avec Calax aussi, qui est là pour prévenir les violences à caractère sexuel, c'est super.
Oui. Oui, Calax. On a aussi Ressources Genesis. On a Vision d'espoir et de sobriété. Donc, on a un bel éventail d'organismes. On a aussi, évidemment, Ambulance Saint-Jean qui sont là, les paramédics. On a beaucoup de collaboration avec la Sûreté du Québec et les ambulanciers aussi.
Bon, alors merveilleux, ça c'est vraiment un volet très intéressant, très responsable aussi, alors de votre festival. En fait, bon, alors bien des gens qui seront au rendez-vous, alors bien sûr, bien du monde à loger, hein, faut le dire quand même, c'est sûr que là, il est un petit peu tard là, pour les hébergements quand même, mais il y en a quand même certainement en dehors de Baie-Saint-Paul. Alors, puis cette année aussi, il y a quand même les médias de l'étranger qui seront là, des médias de l'Angleterre, alors il y aura une sorte d'échange en même temps qui va se faire, c'est-à-dire que même plus tard, vous allez aller aussi rencontrer peut-être des artistes de là-bas, mais enfin, il y a une présence des médias de l'Angleterre qui vont couvrir l'événement.
Oui, exactement, c'est un partenariat avec Tourisme Charlevoix, entre autres, puis on est super contents. Je pense que, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup d'autres festivals un petit peu partout, là, hors du Québec, et on a vraiment, je pense, une particularité qui peut nous permettre de distinguer vraiment dans les événements un petit peu partout sur la planète. Là, on a quelque chose de bien spécifique, donc on est content de voir que des médias de l'extérieur vont découvrir la formule festive.
C'est ça. Alors bon, ben on va quand même parler de programmation, hein, puisqu'il le faut.
Oui.
C'est sûr, on va y arriver. Maintenant, alors quand même, alors plusieurs sites, c'est sûr, faut le dire, là, jusqu'ici, là, en 15 ans quand même, c'est au moins 7 à 800 artistes qui sont venus de partout dans le monde, mais évidemment nos artistes à nous. Et puis là, ben il y aura quand même une vingtaine de sites, on va avoir une centaine d'artistes qui seront présents. Évidemment, on ne peut pas tous les nommer, mais juste, ben comment, d'abord, on va commencer. Le 18, là, ça, il va y avoir Salle Barbe, qui est très populaire toujours.
Oui, comme vous avez dit, on a beaucoup d'artistes. On a effectivement, pour la scène principale, on a Julie Aubé, Émile Bilodeau, Salle Barbe. Puis un petit peu partout dans la fin de semaine, on a Moon Run, Carquois, Galaxy, Marie-Annick Lépine, Philippe Braque. On a beaucoup d'artistes. Comme vous disiez, internationaux aussi, là, on en a une vingtaine à peu près cette année.
Ben c'est ça, juste, c'est pas rien quand même, ce groupe montréalais Half Moon Run qui est très populaire. Alors, effectivement, il y a Carquois, il y a le trio Le Roi, La Rose et Le Loup, composé de d'artistes bien connus. Enfin, bref, et puis différentes scènes aussi. Alors, ça veut dire différents partenaires, bien sûr, qui sont toujours essentiels à la survie de ce type de festival, là, il faut le dire, parce que vous disputez en même temps les artistes. C'est pas évident de bâtir une programmation.
Non, vraiment pas. Puis bâtir une programmation, ça se fait longtemps d'avance. Là, je suis déjà sur la programmation 2025, donc c'est beaucoup de négociations. Les artistes québécois, c'est plus simple, mais les artistes internationaux, souvent, faut se positionner d'avance parce que tu sais, il y a des artistes là-dedans qui peuvent tourner partout sur la planète. Donc de les convaincre de venir dans une petite ville de 7000 habitants à Baie-Saint-Paul, près de Québec, ben c'est pas toujours évident. Donc c'est un travail qui se fait en continu. Des fois, il y a un artiste, ça peut faire 5 ans que j'essaie de les avoir puis que je réussis enfin après plusieurs années.
Oui, c'est ça. Donc, alors, ça vaut la peine vraiment d'aller voir toute la programmation, les différents sites. Là. Effectivement, on est même dans la cour des gens. C'est vraiment intéressant et c'est spécial. Il y a aussi un off festif.
Oui, bien, en fait, il y a des commerçants qui avaient le goût de s'impliquer, d'embarquer dans l'aventure. Donc, il y en a certains qui organisent des spectacles. On les place dans notre programmation. On les nomme off festif. Donc, c'est vraiment des initiatives de commerçants. On travaille quand même la programmation avec eux. On veut s'assurer que ça fonctionne bien avec notre ADN. Puis ça, ben ça, c'est gratuit également.
Exactement. Donc, vous nous avez nommé quelques noms, mais enfin, il y en a tellement. Petit Béliveau, Philippe Braque. Vraiment, c'est très intéressant. Oui, Nathalie a une question pour vous.
En fait, vous travaillez en collaboration avec Kéroul aussi pour l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Oui, tout à fait. C'est un partenariat qu'on a mis en place cette année. Donc, mm-hmm. C'est une phase 1. Là, on veut en faire beaucoup plus, mais là, pour l'instant, on a vraiment mis en place une zone pour les personnes à mobilité réduite, des rampes d'accès pour nos billetteries, des rampes d'accès à d'autres endroits pour que ça soit plus accessible un petit peu partout. On a des tapis aussi quand c'est des espaces gazonnés. Donc, c'est une première étape, mais le but, c'est vraiment de s'assurer que les personnes à mobilité réduite peuvent participer autant que que tout le monde.
Mm-hmm, tout à fait. Alors, évidemment, la formule passeport, ça, c'est pour les spectacles payants, mais comme on dit, il y a quand même 50 % des spectacles qui sont gratuits, alors il faut vraiment regarder ça. Il y a des passeports aussi, il y a différentes formules. Là, on peut évidemment avoir des billets unitaires également. Et puis, moi, ce que j'aime, évidemment, de vous, là, c'est Clément Turgeon, c'est que finalement, vous avez plein de projets, puis en même temps, ben, c'est-à-dire que le festif, ça continue même en dehors de ce festival. Vous avez conçu, en fait, il y a le festif dans les écoles.
Oui, le festival école, c'est vraiment un autre projet qu'on est extrêmement fiers. Nous, ça nous permet d'être à l'année finalement, puis diffuser de la musique, présenter des artistes. Donc là, l'année dernière, on a été dans près de 85 écoles partout au Québec, donc c'est pas seulement dans Charlevoix. On se déplace avec des artistes connus ou des artistes émergents. On fait des spectacles pour les jeunes, des ateliers d'écriture. Dans certains programmes, même, on compose des chansons. Donc, c'est vraiment un beau projet qu'on a mis de l'avant. Là. C'est la même, je pense, ça va être la 8e édition déjà.
Ah, quand même. Alors ça, c'est intéressant. Donc, ça ouvre d'autres portes. Et puis, effectivement, puis ça a toujours été votre mandat en même temps, votre mission là, de faire connaître des artistes émergents. Alors, le festif de Baie-Saint-Paul, d'autant plus, là, vous avez, je pense, aux gens qui vont aller vous voir, il y a maintenant aussi une autre belle attraction dans la région, Cité Mémoire, qui à Charlevoix. Donc, ça incite les gens aussi à se déplacer pour aller dans cette belle région.
Ben, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment une région exceptionnelle. Il y a plein d'affaires culturelles, mais il y a aussi, tu sais, le plein air, juste la beauté des lieux. Mm-hmm. C'est un argument pour descendre à Baie-Saint-Paul.
C'est ça, parce que, bon, Cité Mémoire, ce sont ces grandes projections-là enfin, dans un cadre naturel. Et puis, bon, on en est à notre deuxième édition. Je pense qu'on a rajouté un autre tableau. Alors, ça s'ajoute, évidemment, au plaisir, à l'expérience d'aller dans cette belle région de Charlevoix et à Baie-Saint-Paul pour le festif. Ça commence donc ce jeudi, c'est ça?
Oui, ben nous, on a... Il y a une ouverture demain soir.
Demain soir, officiellement, oui.
7h avec le Parvis Ici Musique. Donc, c'est un endroit, il y a des DJ sets et tout ça. Donc, c'est vraiment le fun comme activité de pré-festif. Et le festival, dans sa forme régulière, commence le jeudi.
Oui, parce que le Parvis, c'est un endroit aussi pour célébrer, pour fêter, pour danser. Et c'est vraiment, c'est fort intéressant avec des DJ sur place également. Et puis, ben, il y a une programmation, je pense, au niveau familial aussi. Hein? Je pense qu'il y a un spectacle de cirque.
Oui, on a des activités sur la rue Saint-Jean-Baptiste qu'on met piétonne pour l'occasion, comme on disait. Donc, on a des animations de cirque. On a aussi un espace famille. Il y a des activités, bricolage, initiation à la musique et tout ça. Donc, les parents sont extrêmement bienvenus avec leurs enfants. On a beaucoup de spectacles gratuits aussi. Ça fait que c'est plus simple pour les familles de pouvoir profiter de l'événement.
Oui. Alors, vous avez évidemment votre petit côté éco-responsable. Alors, au niveau aussi de bien sûr, bouteilles d'eau réutilisables qu'on peut se procurer. Vous avez plein de trucs comme ça. Puis, en fait, des îlots de tri aussi. Alors, c'est intéressant de voir tout ce que vous faites aussi au niveau éco-responsable. Merci beaucoup, Clément Turgeon, d'être venu nous en parler. On vous souhaite quand même un bon festival du 18 au 21 juillet. Mais en fait, ça commence officiellement demain soir.
Ben oui, merci à vous.
Merci beaucoup et à l'an
Bonne
prochain.
Journée.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, ce qu'on entend, c'est Los Tiki Phantoms, un groupe de Barcelone qui sera au festival ce vendredi, le 19 juillet, au garage du curé Exclaim à 1h30 du matin, par contre.
Wow! OK, bon, ben ça va finir la soirée. Merci, Mathieu. Mathieu Tessier, que je salue, évidemment, qui est toujours avec nous, réalisateur, bien sûr, de l'émission, et puis, alors, qui est toujours présent. Alors, on va accueillir notre dernier invité de l'émission, qui est Maxime Drolet. Bonjour, Maxime Drolet.
Bonjour, ça va bien?
Ben, très bien, merci. Et puis, on va parler évidemment de votre parcours de vie. On va parler de ce que... En fait, je sais qu'on va vous recevoir, Nathalie. Tu me disais justement, hors d'onde, comme ça qu'on allait le recevoir de nouveau, mais pour une autre raison.
Oui, en fait, Maxime, on s'est parlé la semaine dernière. On va commencer par parler de ton histoire, mais je sais que la semaine prochaine, on veut te recevoir à titre de spécialiste parce que tu es courtier immobilier dans la vie. Et tu travailles avec des gens qui sont en situation de handicap, donc tout ce qui est maison adaptée, tout ça, tu connais ça.
Oui, bien, on va regarder ça pour la semaine prochaine.
Exactement.
Oui, j'ai développé une entreprise qui accompagne les gens pour tout ce qui touche à l'habitation, mais spécialement ça pour les gens qui ont un handicap ou des limitations physiques quelconques.
Oui, parce que c'est ton cas. Tu as tu as à l'âge de 19 ans, tu es devenu tétraplégique, hein?
Oui, exactement.
Bon, alors suite à un accident de voiture, alors on ne va pas nécessairement reparler de cet événement-là, mais évidemment, tu as dû te rebâtir complètement, tu as dû évidemment relever de nombreux défis. C'est sûr que ça n'a pas été facile au début, mais tu es un exemple de détermination et tu nous montres à quel point c'est possible de refaire sa vie, même si on a des limitations. Et parce qu'à un moment donné, là, vraiment, toi, c'était... c'est sûr que tout de suite après ton accident, là, ça n'a pas été facile.
Non, ben c'est sûr que c'est ça quand c'est comme perdre les âges de ses jambes, de ses mains. C'est quelque chose vraiment, tu peux pas vraiment expliquer tant que tu le vis pas. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense pas que grand monde qui vit ce genre de choses-là, que dans les débuts, c'est quelque chose de facile à accepter. Je pense que chaque personne a son comme degré de résilience. Mais ça prend pas juste des mois, mais des années, je pense, à se rebâtir, comme tu dis. Puis, c'est ça. Moi, ça a pris quand même un certain temps, mais... Qu'est-ce que moi j'ai comme chance, c'est d'avoir vraiment un très bel entourage, une famille très proche de moi qui m'ont toujours encouragé dans tous mes projets. Donc oui, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais tu sais, je veux dire, j'ai besoin de mon équipe pour pouvoir mener à bien mes projets, surtout quand tu fais un accident ou que 80% des choses que tu faisais avant, tu ne peux plus les faire. Donc ça prend quand même ça, des gens pour pouvoir t'aider à accomplir ce à quoi tu aspires. Donc, c'est sûr que sans ma famille, je pense pas que j'aurais pu être là. Mais oui, j'ai quand même, je pense, un peu en moi déjà ça, un peu de toujours vouloir plus, puis de pas, de certaine manière, s'apitoyer sur son sort. Donc, oui.
Maxime, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui vivent des moments difficiles, comme tu as vécu, parce que j'imagine, toi, à l'époque, quand tu as eu ton accident, tu devais dire « la vie est finie ». Tu devais dire ça sur ton lit d'hôpital. J'imagine que c'est difficile de remonter.
Ben, c'est sûr que t'as toutes les pensées qui veulent pas, c'est que j'étais quand même assez jeune, j'avais juste 19 ans. Mm-hmm. Puis c'est sûr que t'as toutes les types de pensées du genre, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être capable de retomber en amour. T'sais, moi, j'avais une idée de qu'est-ce que je voulais faire aussi professionnellement, puis ce métier-là n'était plus possible. Donc, tu tombes en question sur un peu toute ta vie, puis mm-hmm. tu perds l'usage aussi, mais tu perds aussi des sensibilités, puis ça touche tellement d'aspects de la vie que des fois les gens ils pensent juste que ok ben tu sais ces gens bougent pas c'est tout mais c'est avoir surtout quelqu'un quand t'es atteint de la moelle épinière c'est beaucoup plus que ça c'est mm-hmm. de réapprendre aussi à comme comprendre comment ton corps fonctionne tes organes désolé ils agissent différemment fait que c'est pas juste le côté physique c'est le côté mental c'est le côté aussi de réapprendre à comment ton corps maintenant il fonctionne différemment. Donc, c'est beaucoup de choses à apprendre en même temps. C'est pour ça, comme je dis, ça prend des années à se rebâtir.
Exactement. Puis, ouais. Mais je t'admire beaucoup pour tout ce que tu as
Absolument.
Acheminé depuis
c'est vraiment un exemple très fort. Mais en fait, donc, tu avais le choix de t'apitoyer sur ton sort ou enfin de mordre dans la vie. C'est ce que tu as fait finalement. Et toi, tu étais déjà joueur de hockey. Alors, tu avais le sport, en fait, dans ton ADN, façon de parler. Tu avais déjà cette passion-là. Et donc, ça a été normal pour toi de te remettre à l'entraînement. Et évidemment, tu avais ton père justement qui t'accompagnait à des entraînements et tout, enfin, qui était très présent. Et puis, tu as un frère aussi qui est très impliqué avec toi. Ton frère, je pense que c'est ton frère jumeau. Hein?
Un frère jumeau, ouais. Dans le fond, ben, c'est une famille de 4 enfants, puis on est tous vraiment très sportifs. Encore aujourd'hui, pas juste qu'on était enfant, mais maintenant, tu sais, ma soeur, la plus vieille, elle a 34 ans. Moi, mon frère, on est dans le milieu, on a 30 ans, puis j'ai un petit frère de 25. Puis on est tous très sportifs. Ça a toujours été quelque chose de super important, naturel, pas nécessairement quelque chose de... Des fois, il y en a qui trouvent ça comme c'est un fardeau là, de devoir dire « OK, il faut que je me mette en shape » ou « faut que je garde une certaine activité physique à chaque semaine ». Nous autres, on a toujours vraiment aimé ça. Puis c'est ça, suite à ma réadaptation, tu sais, quand tu perds 80% des heures de ton corps, il y a beaucoup de choses du quotidien que tu peux plus faire. Puis, tu sais, mon zèque, que dans les débuts, c'est la seule chose que je me disais, tu sais, que moi, je voulais m'entraîner pour le donner le plus autonome possible parce qu'un enfant que je trouvais vraiment difficile, c'est de dépendre des autres.
Mm-hmm,
fait que c'est quelque chose que j'ai même... Je dirais, depuis mon accident, je suis encore plus... je fais encore plus d'activité physique que j'en faisais avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu naturel. Puis, j'ai commencé... J'ai même fait des marathons. J'ai fait des ultra-marathons. Puis, je joue au rugby aussi en fauteuil roulant depuis un certain temps. Fait que... Puis, je veux pas de... Le fait d'être d'avoir une certaine forme physique, surtout quand t'es en mobilité réduite, le fait d'être toujours assis, le corps est pas fait pour être toujours en position assise. Fait que le fait d'être en forme, ça te permet aussi de juste dans le quotidien, de pouvoir t'aider autant pour faire tes transferts au lit que juste faire du ménage ou peu importe. Là, ça t'aide dans tous les aspects de ta vie. Donc,
c'est ça, juste pour gérer ton quotidien. Alors, ça prend une excellente forme physique pour y arriver, pour être le plus autonome possible. Donc, alors, effectivement, tu vas passer une période de réhabilitation, tout ça. Tu vas aussi retourner aux études. Ça, c'était en 2014. Ouais. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et puis, donc, c'est tout le rapport au temps qui change. Alors, ça prend le temps que ça prend, mais finalement, tu y arrives. Et puis, bon, alors, tu parles évidemment de marathon. Tu parles de... tu as fait Montréal-Québec aussi avec ton frère.
Oui, avec mon frère, oui, exact.
Quand même. Et puis, ça a été une expérience un peu difficile dans la mesure où je pense que tu es tombé, tu as fait une chute. Ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile, mais c'est ça, les courses d'endurance, je ne sais pas pourquoi. J'ai été président d'une fondation pendant 6 ans. Puis on avait comme établi à chaque année, hein, je voulais me faire un défi, puis faire une levée de fonds autour de ce défi-là. Puis le dernier que j'ai fait, justement, en 2020, justement, c'était ce défi-là, Montréal-Québec, avec mon frère. Puis c'était toute une aventure, mais oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment... on dirait que la plupart des gens, ils aiment pas tant ça, faire des longues distances, courir. Mais j'étais également, moi, malgré que j'étais quelqu'un de beaucoup en forme, j'avais jamais couru, même sur mes deux jambes, plus que 5, 6, 7 kilomètres. Puis on dirait d'apprendre à le faire, t'apprends quelque chose à travers ça. Puis je trouve que chaque course, c'est un peu comme... Je trouve un peu ça comme le quotidien de la vie. T'sais, des fois, il y a des courses qui vont super bien, puis t'as d'autres jours que tu fais le moins bien, puis après 2 kilomètres, t'es pas capable. Mais je trouve que ça représente un peu la vie. Des fois, ça va bien, puis des fois, ben c'est plus difficile. Il faut juste que tu persévères, puis tu finis par arriver au bout de la course. Fait que j'ai beaucoup appris de ces années-là de longue distance. Là, j'en fais un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps avec mon entreprise, mais tu sais, je continue à jouer au rugby, tout ça. Mais
c'est ça, le rugby.
Pour longue distance, c'est énormément d'entraînement et c'est beaucoup d'heures.
Ouais. Pourquoi le rugby? qu'est-ce qui a motivé ce choix?
Mais pour être vraiment, c'est vraiment plus le rugby qui m'a choisi d'une certaine manière parce que. Non, mais pour vrai, parce que moi, je voulais jouer au hockey, évidemment. Il y avait le hockey luge, ce qu'on appelle. Mm-hmm. Sauf que quand tu es atteint aussi au haut du corps, moi, j'ai mes mains qui sont vraiment affectées. Le hockey luge devient une option assez difficile. C'est vraiment plus les gens qui sont seulement atteints des jambes ou qui sont des amputés, mais qui ont 100% le haut du corps, qui jouent au hockey luge. Puis le rugby, ça a été créé un peu pour les gens qui ont des atteintes un peu partout. Dans le fond, t'es autant haut du corps qu'au bas du corps parce que en fonction de tes limitations, t'as un pointage qui est attitré puis un rôle. Fait que c'est, dans le fond, le rugby, je me suis plus reconnu puis j'ai commencé à jouer. Au début, c'était plus ou moins, mais plus que j'ai joué, plus que j'ai aimé l'ambiance de l'esprit d'équipe, d'être avec les boys, puis j'étais quand même pas, tu sais, j'étais certain, le coach de Canadienne, dès le début, il trouvait que j'avais du potentiel, fait que ça m'encourageait à continuer.
C'est ça,
en 2019,
c'est bien.
J'ai fait l'équipe, puis c'est
incroyable. Et puis vous avez créé aussi la Fondation Neuroconcept, hein? Ça c'est pour, bien sûr, aider un peu les gens, les autres aussi, qui sont à mobilité réduite.
Ouais, mais c'est dans le fond, j'étais président de cette fondation-là pendant 6 ans, là, je fais plus partie de la fondation. Mais c'est moi qui l'a démarré, dans le fond, avec Muriel Grandjean, qui est présidente de Neuroconcept. C'est un centre de réhabilitation spécialisé pour les aptitudes qui est atteinte neurologique, donc blessés médulaires, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Puis on avait créé une fondation qui était initialement, qu'est-ce qu'on voulait, c'est de travailler avec les centres d'entraînement dans chaque municipalité. Exemple, énergie cardio, ces choses-là. Puis on voulait, dans le fond, créer des endroits dans chacun de ces gyms-là qui ont du matériel pour des gens qui ont des handicaps, pour encourager les gens dans chaque municipalité.
C'est ça.
Qui sont en chaise roulante à aller au gym pour... Parce que la plupart des gyms, ils sont pas vraiment adaptés, ils n'ont pas d'équipement adapté. Fait que c'est ça qu'on a fait pendant longtemps. Puis sinon aussi, on accompagnait des fois des gens, dans le fond, qui venaient d'avoir une réadaptation, mais qui avaient beaucoup de potentiel, mais pas les fonds nécessaires.
Ben, ça prend de l'argent. Oui. Votre famille en avait un petit peu, alors ça vous a aidé, mais quand même, c'est pas tout le monde. Nathalie, une dernière question pour vous.
Maxime, en quelques secondes, t'arrêtes pas 30 secondes. T'as aussi une entreprise de location chalet court terme. T'as participé à la construction et tout ça.
Mais ça, on pourra en parler la prochaine fois. Hein, c'est vrai, on va en parler.
Oui, ça, en gros, tu sais, pour y aller rapidement, tu sais, juste avec la fondation, le chalet, juste comme commencer à juste aimer développer des projets, des services pour aider ces gens-là. Puis tu sais, je veux pas le fait d'être en chaise roulante. Puis je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, moi. Fait que tu sais, j'écoute les gens. Fait que au fil des discussions, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de quand même certains problèmes, certaines choses qui vont être réglées. Fait que moi, je fais juste comme créer des entreprises, des services pour régler ces problèmes-là.
Alors c'est partie remise pour notre prochaine entrevue. Merci Maxime Drolet, ça a été un plaisir. Et puis ben Nathalie, c'est déjà le temps de se quitter.
Ça va trop vite.
Mais on sort
tellement
demain.
Des bons invités.
Oui, je sais. Ce sont nos invités qui sont bons.
Ouais.
Alors voilà. Et alors qui sont inspirants. Alors on se retrouve demain à la même heure. Aime l'été entre midi et 13h. Passez un bon après-midi à tous.
Après la pause,